Merci Madame la Présidente. Puisque je suis le premier à parler, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à la délégation luxembourgeoise pour le dialogue constructif que nous allons avoir sur la situation des droits de l'homme au Luxembourg. Mais je voudrais surtout remercier le Grand-Duché, la délégation, la chef de la délégation, pour le travail qu'ils nous ont présenté. J'ai beaucoup apprécié personnellement la précision des données, la clarté de l'information, l'abondance de l'information, les statistiques, etc. Et à mon avis, cela prouve que le Grand-Duché est un État qui prend au sérieux la question des droits de l'homme. On ne peut surtout pas vous reprocher de ne pas respecter l'égalité des genres, ne serait-ce que en observant la composition de votre délégation. Mais notre travail n'est pas de délivrer des satisfecit, quoique je reste persuadé que le Luxembourg le mérite. Et nous allons donc commencer à traiter la liste des questions auxquelles le Grand-Duché a répondu d'une manière extrêmement consistante et positive. Alors je commence par la première question. Je vais traiter dans ce qui suit la question 1 et la question 2. Je commence par la première question. Dans le paragraphe 4 de ses observations finales de mars 2003, le comité avait recommandé à l'État parti d'envisager de réexaminer ses réserves en vue d'en assurer, dans la mesure du possible, le retrait. Il s'agit plus exactement des réserves aux articles 10, paragraphe 3, 14, paragraphe 5, 19, paragraphe 2, 20, paragraphe 1 du pacte sur les droits civils et politiques. Dans la réponse, l'État parti indique qu'un avant-projet de loi de justice pénale, et d'ailleurs, Madame le chef de la délégation l'a rappelé tout à l'heure, qu'un avant-projet de loi de justice pénale pour mineurs, séparé du système de protection de la jeunesse, est en cours. Et en fonction de la teneur définitivement retenue par le législateur pour cette future loi, la réserve pourrait être réexaminée. C'est un peu la réponse de votre honorable délégation. Alors, j'ai un certain nombre de points à soulever à ce propos. Tout d'abord, cette réserve n'est pas très claire. Je ne vais pas la citer. Il s'agit de la réserve à l'article 10, paragraphe 3. Est-ce que vous pouvez nous l'expliciter? Nous en expliciter la teneur et le sens. Et le deuxième point, toujours sur cette réserve au 10, paragraphe 3. Est-ce que vous pouvez préciser comment et pourquoi le retrait de la réserve dépend d'une manière ou d'une autre de l'adoption du projet de loi sur la justice pénale pour mineurs qu'adoptera dans l'avenir le Parlement? La deuxième question que j'ai à poser sur les réserves, c'est vous n'avez pas donné de réponse sur la réserve à l'article 14, paragraphe 15. Est-ce que vous pouvez préciser ou expliquer, ou plutôt justifier la réserve à l'article 14, paragraphe 5 du pacte. Et au sujet de la réserve à l'article 19, l'État parti estime que le régime d'autorisation pour les entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion ou de cinéma est compatible avec l'article 19, en ajoutant que la réserve pourrait être revue après l'entrée en vigueur de la révision constitutionnelle qui a été évoquée également par la chef délégation. Et je sais, nous savons que vous êtes en plein processus de révision constitutionnelle. La seule question que je voudrais poser, c'est de savoir si vous pouvez préciser la relation entre la révision constitutionnelle et la réserve à l'article 19. Je passe maintenant à la question 2. Il s'agit d'une question relative surtout à l'application par les tribunaux nationaux des dispositions du pacte. Et dans votre réponse, vous nous dites que le pacte se voit reconnaître par les juridictions judiciaires luxembourgeoises avec effet direct et primauté par rapport à toutes les normes internes de l'État, y compris la Constitution. Et d'ailleurs, la chef de la délégation nous a rappelé que vous étiez dans un système moniste. Et vous citez pour cela plusieurs décisions. Je les évoque très rapidement, l'arrêt étude et autres du 7 février 2018 de la Cour d'appel, l'arrêt Misnard du 14 décembre 2006 de la Cour de cassation, l'arrêt Romaine contre Voltaire du 13 novembre 2001 de la Cour d'appel également, l'arrêt Romaine contre Voltaire du 5 décembre 2002 de la Cour supérieure de justice, qui reconnaît aux conventions relatives aux droits de l'homme régulièrement incorporées dans le droit interne. Dans le droit interne, une valeur supérieure à la Constitution. La question que je vais poser à ce propos, d'abord je vous remercie de nous donner des exemples concrets de utilisation par le pacte, par les tribunaux et surtout les tribunaux supérieurs dans le Grand-Duché, et je voudrais vous demander de nous préciser les procédures constitutionnelles d'incorporation des traités dans le droit interne. Parce qu'il me semble que, à lire vos écrits, surtout les réponses aux questions, que ça ne va pas très bien ensemble, l'idée de l'incorporation des conventions dans le droit interne et l'idée du monisme ne vont pas tellement ensemble. Donc je voudrais vous demander de préciser quelles sont les procédures constitutionnelles d'incorporation des traités, bien sûr, en ce qui nous concerne les traités des droits de l'homme, évidemment, dans le droit interne du Luxembourg. Je voudrais également demander ce qui se passerait en cas de contrariété entre une convention relative aux droits de l'homme et la Constitution. Si jamais il y a une contrariété dans cette hypothèse, est-ce qu'il faut réviser la Constitution ou comment procéder pour éviter ou dépasser la contrariété ou la contradiction, si vous voulez, entre la Constitution et la Convention relative aux droits de l'homme. Voilà, j'en ai terminé dans la limite du temps qui m'est imparti. Et vraiment, je voudrais encore une fois remercier la délégation pour le rapport, les réponses à la liste des questions, le document de base sur le Grand-Duché, etc. C'est extrêmement appréciable de la part de notre comité. Je vous remercie, Madame la Présidente.